La bande du jeudi. La bande du jeudi.
L'heure est à la trêve olympique et avec elle son lot d'interrogations. Après une bonne passe qui avait vu le HC Ajoie gagner 4 de ses 5 matchs consécutifs, on a assisté à une dernière semaine sans résultat et sans vraie saveur. On analysera ce qui a bien fonctionné par moment et ce qui a cloché lors de ses dernières sorties. On se projettera aussi sur les dernières échéances de saison régulière et sur le play-out qui se profile. Et puis on parlera aussi des Jeux Olympiques qui s'ouvrent et on nous promet un tournoi de hockey hors du commun.
La bande du jeudi.
Bonsoir, bienvenue dans notre podcast. C'est donc la pause en National League. La reprise est prévue le 24 février. Ce sera avec un déplacement à Zurich, puis 4 autres rencontres qui serviront à préparer un play-out devenu a priori inéluctable. Pas de vacances pour la bande du jeudi. Salut Yann, salut Rafi.
Bonjour tout le monde.
Salut tout le monde.
On accueille aujourd'hui aussi un autre consultant, lui aussi suiveur passionné, suiveur assidu du HCA, Martin Bergeron. Salut Martin.
Salut.
Bienvenue. On t'a invité parce que tu m'as dit que tu avais plein de choses à dire.
Plein de choses à dire. Peut-être pas toutes les bonnes choses à dire, mais on va essayer de dire un peu plus de vérité aujourd'hui.
La bande du jeudi. La bande du jeudi.
Voilà Martin, on a pour coutume de présenter nos invités qui sont habituellement plutôt des joueurs ou des membres du staff du HC Ajoie, mais on ne va pas déroger à la règle. Aujourd'hui, donc, tu es consultant pour le hockey sur glace, on peut te qualifier comme ça. En tout cas, tu commentes aussi avec nous sur RFJ les matchs du HCA. Tu as été bien sûr joueur, entraîneur, tu es responsable aussi d'un magasin de hockey. Bref, ta vie, c'est le hockey, on peut le résumer comme ça.
Oui, matin, soir, midi. Non, c'est vrai que voilà, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un sport qui m'a passionné sur le tort, hein, parce qu'on n'oublie pas que j'ai commencé à 11 ans et 9 mois à jouer sur glace. Mais voilà, depuis ce jour, j'ai envie de dire que je m'en passe jamais.
Oui, ça allait très vite pour toi, on aura l'occasion d'y revenir. Tu as cultivé ta passion dans ton Québec natal, hein. Rapidement, tu affoles les compteurs en Ligue Junior, tu parles de 11 ans, sauf à 14-15 ans, t'as déjà des stats assez dingues, hein, notamment avec les Voltigeurs de Drummondville. Tu fais une saison à 109 points, une autre à 137, ça te permet d'être drafté très très jeune. Comment t'expliques cette précocité? Tu l'as dit, t'as commencé tard et tout de suite tu t'es senti très à l'aise visiblement.
Bon, en fait, mon problème de jeunesse c'était que j'étais petit, c'est dur à croire, de petit, surtout très maigre. Je faisais 67 kilos à mon premier camp d'entraînement junior majeur et puis ben, ça a peut-être un peu ralenti ma progression ou j'ai envie de dire mon développement. Et puis c'est vrai que là, quand je suis arrivé à 19 ans, 20 ans, mais là j'avais peut-être un peu plus dans les 80 kilos et j'étais un petit peu plus lourd, mais encore trop lourd malheureusement pour la NHL.
Est-ce que c'est un regret finalement pour toi?
Ben, le regret, ça c'est sûr, parce qu'on est tous joueurs de hockey, surtout un Québécois, on rêve tous d'être un jour joueur NHL, mais à l'époque, c'était à l'époque où on pouvait accrocher, donc si on n'était pas en joueur de centre en plus, ce qui était ma position, si on faisait pas 90 kilos, 95 kilos, on n'avait aucune chance. Entre-temps, une fois que j'ai arrêter de rêver à la Ligue nationale, ils ont un peu changé les règlements où ce que là l'accrochage était plus devenu un facteur de prédominant et puis les petits joueurs ont commencé gentiment à faire leur place, mais mon temps il était malheureusement pas assez.
Pas de NHL, l'Europe à la place, t'es parti à 24 ans sur le vieux continent. C'était un choix évident pour toi?
Ben, mon agent de l'époque m'a toujours dit que j'avais le profil pour aller en Europe. Les patinoires étaient plus grandes, c'était des patinoires où on pouvait patiner, avoir de la place, pas nécessairement très physique non plus. Donc voilà, je suis parti pour l'Europe à 24 ans, arrivé en Allemagne. C'est vrai que j'ai bourlingué pas mal dans plusieurs différents pays. Et puis, c'était un bagage, une expérience que je ne regrette pas. Bien sûr, oui, j'aurais voulu jouer en NHL, c'est clair que tout joueur le veut, mais en même temps, si j'aurais à choisir aujourd'hui, je pense pas que j'aurais fait vraiment différent.
Et si on fait tout ton parcours, on en aurait pour la soirée en tout cas. Du coup, on va peut-être prendre progressivement l'Allemagne, ensuite l'Autriche, après la Finlande, entre les deux, le Japon. Comment t'expliques cette halte au pays du soleil levant?
Ben, c'est une offre, hein. Comme je disais tantôt, je jouais avec des vieilles cannes Sherwood en bois qui n'existent plus aujourd'hui, presque sur le marché. Et puis, la compagnie Sapporo, ce que j'ai joué, hein, Snow Brand, ça s'appelait Snow Brand Sapporo, était venue au Québec, à Sherbrooke, pour commander des gants, des cannes. Et puis, ils cherchaient deux Québécois parce qu'ils avaient des chèques depuis plusieurs années. Ils en avaient un petit peu marre. Ça marchait pas comme ça devrait. Alors, on m'a proposé de partir au Japon. Ils sont venus me rencontrer, m'expliquer comment ça marchait là-bas. Et puis, j'ai embarqué dans l'aventure. Et c'était une aventure incroyable parce qu'au niveau de, comment on se faisait traiter, c'était la NHL. On était, j'ai un souvenir qui est inimaginable. J'ai joué quand même 18 ans comme professionnel partout en Europe. Et puis quand je suis arrivé au Japon, dans la maison, parce qu'en fait, au début, ils m'avaient parlé d'un appartement, mais en fait, c'était une maison vraiment séparée avec un garage, la voiture qui était déjà parquée au garage. Quand j'ai ouvert le frigo, il y avait pour une semaine de commission de fête, où le lait, du jus d'orange, du lait, il y avait tout. Il y avait tout pour une semaine sans devoir aller. Et puis c'est là qu'on a vu, j'ai vu le niveau professionnel qu'il y avait là-bas au Japon.
En contraste, quand tu arrivais au HA Joie, puis tu arrivais dans ton appartement chemin, il y avait quoi dans le frigo?
Non seulement il n'y avait rien, mais en plus, le lundi matin, tout était fermé. Donc, j'ai dû attendre le lundi après-midi pour pouvoir aller faire les premières commissions.
Oui, c'est dans les années 2000 que tu arrives à Port-Rentruy. Là aussi, l'acclimatation, partout où tu es allé, finalement, ça s'est plutôt bien passé, en tout cas dans les chiffres. Là, on le voit aussi à Port-Rentruy. La première fois que tu y poses tes valises, ces deux saisons, c'est 177 points en tout. Qu'est-ce qui explique que tu es si bien en Ajoie, tout de suite?
D'avoir joué avec moi.
Je gardais ça pour plus tard, mais non, en fait, il y a différents facteurs. Le facteur numéro un, j'ai envie de dire que c'est partout ce que j'ai joué jusqu'à ce jour, j'étais toujours dans une langue différente. Alors, c'est la première fois en arrivant ici en Ajoie où moi, je parle québécois, c'est peut-être différent que le suisse, mais il reste que, c'est plus facile au niveau de l'entente. Et puis, c'est vrai que quand je suis arrivé dans ce vestiaire, il venait juste de passer de première ligue à ligue nationale. C'est une équipe qui avait faim, il y avait beaucoup de joueurs c'était leur première expérience au niveau ligue nationale. Et puis, on n'avait pas un gros contingent, Yann. On était limité dans le contingent, mais on était un groupe qui, quand même, on était très, très soudés. Et puis, on a vite quand même franchi des étapes que personne ne s'attendait à ce qu'on fasse.
Tu as quand même quitté le HCA pendant 3 ans pour passer, je vais prendre dans l'ordre, un pare-balles, puis A7 en Finlande et même la Chaux-de-Fonds avant de revenir à Port-Rentruy. Qu'est-ce qui explique ce retour? Tu avais l'ennui?
L'ennui, oui. Faut pas oublier que ma femme, elle vient du Jura aussi. Donc ça, c'était un deuxième facteur. Non, c'était pas l'ennui. Et puis, je suis pas parti. Je sais qu'il y a eu tellement de fausses... fausses déclarations, fausses rumeurs, pourquoi je suis parti. Quand t'es un professionnel, quand t'as envie de gagner, à l'époque, j'ai envie de dire, le professionnalisme du HA Ajoie était très, très, très bas. C'est une équipe qui venait de monter, il faisait deux saisons qu'on était en Ligue B, mais le niveau amateuriste était vraiment présent. Ils sont venus, il y avait un projet avec Stéphane Julien qui est un compère de moi du Québec. On est parti sur le projet de vouloir monter en Ligue nationale, la patinoire est en construction. Mon malheur, parce que là-dedans, il y a eu un malheur, c'est qu'on n'a pas pris 2 ans pour monter, mais on a monté directement à la première année. Et puis, le chef technique de l'époque, Paul-André Cazieux, paix à son âme, a décidé que moi et Stéphane Julien, on n'était pas assez forts pour jouer en Ligue nationale A. Et puis, l'année d'après, ils sont directement redescendus. Donc, j'ai eu un petit peu une récompense. Mais entre-temps, je suis reparti en Finlande parce que, l'opportunité d'aller jouer dans la plus haute ligue finlandaise s'est ouverte à moi. Et puis, j'ai pas hésité une seconde.
Tu parles de la Liga, tu y as goûté quand même. C'est quand tu étais revenu à Port-Rentruy en 2005. Fin de la saison, tu peux goûter à la Liga avec Zurich. 2 matchs, 1 assist sur la feuille, 2 assists selon toi. Raconte-nous.
Ouais, c'est une longue histoire, mais c'est vrai qu'à l'époque, Zurich était une équipe qui avait une armada incroyable. Juste les défenseurs, il y avait 3 défenseurs de l'équipe nationale. Blinden Bacher, il y avait le gros Beat Foster et puis encore le capitaine Mathias Seger. On avait Harry Solander dans les gos. C'est une équipe qui avait un potentiel fou, mais il y avait trop de chefs, pas assez d'Indiens. Je suis arrivé dans un contexte où ce que Mike Richard venait de se blesser. Ils étaient 9e ou 10e sous la barre. Et puis, il nous restait que 2 matchs. Match qu'on devait absolument gagner à Davos et le match d'après à la maison à Berne. Et puis, l'ambiance était mauvaise. Il n'y avait pas d'autre mot à dire. L'ambiance était mauvaise. Et puis, il y avait aussi la compétition interne. Jan Ashton, qui était le top scorer du, à cette époque-là avec Adrian Wixer. C'était deux joueurs qui se battaient pour le casque jaune. Un match à chaque fois qu'il y en a un qui faisait un point de plus, mais ça allait alterner. Et puis le match qu'on avait perdu 2-1 à Berne, mon premier match en Ligue nationale devant 16 000 ou 17 000 spectateurs, assez intimidant quand même, surtout dans l'ancienne Post Finance Arena qui était avec le mur qui était tout droit. Alors j'avais fait une passe depuis le derrière des buts à Mike Richard pour le 2-1. Et puis après le match, mon assist avait disparu sur la feuille de match et Ian Ashton se l'avait approprié. Alors il y a eu presque une bagarre dans le vestiaire avec Matthias Seger, qui était le capitaine de l'époque, qui voulait casser la gueule à Ashton, qui était un assistant capitaine. Alors je vous dis, c'est pour montrer l'ambiance que c'était. Ensuite à Davos, mais j'ai officiellement eu mon premier assist le match d'après. Donc je considère que voilà, là, mon adaptation, elle était courte, hein, parce que je suis arrivé, on avait deux matchs d'affilée, mais j'ai pu profiter du reste du temps qu'on a fait les play-outs, parce que malheureusement, ils ont fait les play-outs à ce moment-là, et de continuer à quand même toucher la Ligue nationale et puis de voir le niveau de professionnalisme comment est différent de la Swiss League ou la Ligue B.
Et ta carrière, ça finit plus en douceur avec les ligues amateurs, hein, Mérin tout d'abord, la région genevoise, et puis la Dudageois notamment, Franche-Montagne, Tramelan. Tu as aussi été entraîneur dans la région aussi, hein, Franche-Montagne, on s'en souvient, Tramelan aussi bien évidemment, mais tu as même goûté Windline Hockey. Aussi, bref, ta passion, elle est intacte. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est pour aussi décrypter avec nous l'actualité du HCA, puisque tu apprécies également à donner tes analyses et prêter ton œil attentif du hockey sur glace. Et c'est pour ça, donc, en particulier, que tu es là avec nous aujourd'hui.
Puis, si je peux me permettre, c'est quand même un honneur d'avoir Saint-Martin à notre table. Hein. C'est quand même impressionnant de voir la trace qu'il a laissée dans le cœur des Jurassiens, alors qu'il. Finalement, t'as seulement joué trois saisons, hein. Puis dans des années sportives plutôt difficiles, mais voilà quoi. Les supporters t'ont toujours beaucoup apprécié, et puis même plus de 20 ans après tes derniers coups de patin avec le club, c'est impressionnant de voir l'aura que t'as encore parmi les Jurassiens.
Bah écoute, c'est gentil, mais en même temps, je crois, comme j'ai dit tantôt, hein, le fait d'arriver ici dans une région francophone où ce que voilà on était, et puis à l'époque ça a complètement changé, hein. Il va pas me contredire, match après match, victoire ou défaite, on se donnait le devoir d'aller au POC, parce qu'à l'époque c'était pas le restaurant mais c'était le POC. Des fois franchement ça ne nous tentait pas nécessairement d'aller, surtout après les défaites, mais on allait quand même voilà dire bonjour, au revoir à tout le monde. Et puis je pense que c'est peut-être ça qui a fait que mais voilà, Saint-Martin est rentré entre-temps. Il y a Yves Châtelain qui a eu cette super bonne idée de me baptiser Saint-Martin après le week-end, ma première, en fait c'est exactement ça, c'est après le premier week-end de la Saint-Martin où ce qu'on joue jamais ici au HCA durant ce week-end, où ce qu'on a on a fait un petit peu la noce quand même, pas mal fort je dirais, et le mardi on recevait le Grand Lausanne Hockey Club, qui était le club qui est monté à la fin de saison, puis on les avait battus 7-4, et je crois que j'avais marqué 3 buts, 2 passes ou quelque chose dans le style. Et puis c'est ce soir-là que Yves a décidé au micro de me baptiser Saint-Martin, et puis ça n'a jamais quitté.
Le débrief.
On va directement aller dans le cœur de l'action, les trois étoiles, là. Je suis désolé. D'ailleurs, un auditeur m'a dit que je vais arrêter de dire que j'étais désolé à chaque fois, mais je suis désolé. Les trois étoiles, pour moi, elles reviennent encore une fois à Damiano Ciaccio. Point. Voilà. On prend la séquence des deux dernières semaines, et pour moi, le moment fort, l'exploit même, c'est son arrêt à Langnau. Voilà. Il a une telle confiance en lui à ce moment-là du match et de la saison. Il a une telle force devant la ligne qu'il parvient sur un mouvement à emmener toute l'équipe vers le chemin de la victoire. C'est un arrêt miracle, alors que le top scorer de Langnau, là, on voit tous l'image, il croit avoir marqué le 3-0. Et ben, c'est un petit peu cette marque de fabrique de Damiano, puis celle qu'on veut voir du HCA aussi, ne pas lâcher. Et puis je vais encore dire que Damiano Ciaccio, à son âge, ce qu'il a fait et vécu, ce qu'il a enduré cette saison HCA, il était personne à non gratter un moment, voilà, il force le respect. Voilà, il a été aussi moins décisif, il faut aussi le dire, la dernière semaine face à Bienne et Rapperswil. Mais voilà, c'était bien de causer avec lui à Langnau après son match. Là, il est cash, Damiano, sur beaucoup de choses. Et on verra, c'est peut-être terrible de le balancer comme ça, mais est-ce qu'il aura encore du temps de jeu durant cette saison régulière, et s'il aura encore une offre pour la saison prochaine. Voilà, on ne sait pas trop comment il va rebondir pour la suite. Et on pourrait même dire la même chose pour Benjamin Kons. Mais voilà, je donne ces trois étoiles à Damiano Ciaccio.
Damiano, chaque année, il nous fait un highlight qui reste pour les shows de fin de saison, mais c'est vrai que l'arrêt à Langnau, il va rester dans les highlights de l'année. Et puis comme tu l'as dit, il a fait du très bon boulot depuis son retour, depuis qu'on l'a rappelé depuis les tribunes, un peu plus basique, normal de les deux derniers matchs, effectivement, mais faut pas oublier qu'il a cumulé les matchs et puis il a quand même porté le H à Joie lui tout seul pendant presque deux semaines.
Mais c'est vrai que quand on n'a pas eu les prestations héroïques de Thiago, on en est sorti avec 3-0. C'est pas anodin non plus, je pense, parce que les autres matchs, on n'avait pas forcément livré des grosses batailles offensives. On a eu pas passablement de matchs, une vingtaine de tirs cadrés, voire moins, où on sortait vainqueur grâce à lui. Et il a fait les points dont on attendait d'un gardien. Et on en avait parlé ici. Et il a répondu ultra présent. Je partage totalement ses 3 étoiles. Et puis j'espère qu'à l'avenir, parce qu'on a vu de quoi il était capable en enchaînant, j'espère qu'à l'avenir, il ait encore sa chance pour sauver à Joie. Parce que, à mon sens, c'est le gardien qui peut le faire sur ces prochaines semaines.
Oui, effectivement. Et puis, non seulement ça, mais en même temps, c'était au moment qu'ils l'ont sorti des estrades, il était le seul gardien qui était dispo. Donc, c'est aussi au niveau de la tête, c'est beaucoup plus facile. C'est montrer aussi que le ménage à 5, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure solution pour une équipe de hockey, parce qu'avoir 5 gardiens, bon, heureusement, il n'y en a pas eu vraiment 5 sur l'ensemble de la saison, mais il reste qu'à un moment donné, il y en avait quand même 5 sous contrat, puis ils sont toujours 5 sous contrat. Alors, tu peux pas être libéré en juin. Et puis, c'est un peu... on pourrait parler de long en large, mais j'ai envie de dire que sur l'ensemble de la saison, il y a beaucoup d'étrangers qui ont sous-performé. Et puis, je crois que ce surplus d'étrangers n'est pas un bienfait. On parlait tantôt de la séquence des 4 victoires en 5 matchs, et puis les 3 derniers ont été moins bons. C'est quoi le dénominateur commun de ces 3 derniers matchs? Qu'est-ce qui est arrivé entre les 5 matchs où ils ont gagné 4 victoires et puis les 3 derniers?
Il y a eu un retour.
Il y a eu un retour, effectivement. Un retour d'un étranger.
Et tout a changé.
Et puis tout a changé. Faut se poser les bonnes questions.
On y vient, Marc.
Ouais,
on y vient.
On décrypte ça après, effectivement, ouais.
On va continuer avec les 2 étoiles.
Allons-y.
Ben, on reste avec un mercenaire. Je vais donner 2 étoiles à Julius Nettinen, là, pour son sang-froid, son sens du but. Il marche fort en 2026. Puis il a rappelé quand même en quelques accélérations, un petit peu un faux lent, là, toutes ses qualités de finisseur. Un peu un réalisme froid venu du Nord. Ben, il y a toujours ce match à Langnau. Ça paraît loin, ce match à Langnau, mais voilà, c'était ses 2 buts. Et comme disait un de ses coéquipiers, Nettinen, dans un match, c'est quand même, quand on le voit le moins, qui peut être le meilleur. Voilà, bam, il a claqué 1 but, puis 2 buts. Et tout ça, toujours sans Jerry Turkulainen, puisqu'on répète souvent ici que Nettinen a besoin de Turkulainen pour avoir la rondelle dans une bonne position de tir. Voilà. Nettinen, donc 2 étoiles. Nettinen, souvent en courant alternatif, mais Nettinen dans le top 8 des buteurs du championnat. Voilà quoi. C'est quand même un atout pour le HCA Joie d'avoir un tel potentiel au niveau de finisseur.
Oui, et puis je te rejoins totalement. J'avais 2 match winners aussi, ou 2 séries winners sur cette grosse série qu'on a faite. Pour moi, c'était Thiago et Nettinen, parce que on n'a pas beaucoup d'occasions, j'en reviens, même si on gagne des matchs et qu'on fait un gros match à Zug, les autres étaient un peu plus en deçà. Et quand on a Nettinen qui arrive à marquer 1-2 buts parfois de nulle part, juste avec le talent, ça nous permet de faire des points. Et puis, dernièrement, c'était ça pour moi, le duo gagnant, c'est les 3 et 2 étoiles de la semaine. Donc, totalement d'accord avec toi.
Entendre Nettinen d'être dans les étoiles, ça me rappelle cette ligne qu'on a réussi à assembler. On a réussi à mettre trois pièces du puzzle qui font fonctionnait, puis qui tenait avec De Vos et puis Hazen, et cette ligne-là a accumulé les points durant les matchs qu'ils ont joués ensemble. Et puis sur les 3 derniers matchs de la semaine passée, on les a séparés, et puis il n'y avait plus rien du tout à chaque joueur.
Ben voilà, tout est dit. Hein. C'est vrai que Nettinen, c'est un patineur. Hein. Il est capable de patiner. On a vu son accélération à Langnau. Là, il a donné 4 coups de patin pour complètement devancer le défenseur. Il a un tir foudroyant aussi. Alors, effectivement, ces 2 étoiles sont parfaitement à sa bonne place.
Et la dernière, je vais la donner à Johnny. Jonathan Hazen, on lui offre un rôle en vue dans le premier bloc, hein, tu l'as dit, Yann, avec Nettinen et De Vos sur la première séquence de match, là, jusqu'à Berne, là où tout n'a pas été parfait, hein, chez Johnny, ça c'est clair, mais il amène de la vitesse, du PEB, l'offensive, il a cette capacité toujours à garder le puck en contrôle, puis il se démène bien, il marque surtout, hein, on l'a vu dans des situations différentes, 1 but à Langnau, 1 but contre Kloten, 1 but à Bienne, voilà quoi. On sait à quel point il vit une fin de saison charnière, on en a parlé ici la dernière fois, fait de contrat, option pas activée, bientôt 36 ans, là, voilà. Est-ce qu'il sera encore là après l'été, mais en attendant qu'il savoure mon étoile.
Ben, oui, effectivement, bon, c'est la même chose que je disais tantôt, hein. Quand il nous reste que 5 étrangers, on joue au hockey, on est libéré. Joe, c'est un gars qui est beaucoup plus mental que physique. Hein. C'est un gars qui joue avec son intelligence, qui joue avec sa force physique. Et puis, quand on est libéré dans la tête, mais ça devient beaucoup plus facile de jouer au hockey que quand on est constamment sous le stress ou avoir la peur de jouer un mauvais match parce qu'on sait que le match d'après, on peut éventuellement se ramasser dans les estrades, ce qui était le cas en début de saison. Alors, ça peut un peu expliquer pourquoi beaucoup d'étrangers ont sous-performé. Et parlant de lui, mais hier, en partant de la maison, je l'ai vu sortir de chez MRP. Alors, je dis rien, je dis ça, mais...
Il balance l'info, comme ça.
Bon, il habite juste à côté. Hein.
Oui, peut-être. Alors, voilà, mais je l'ai vu sortir de... Mais il venait vraiment depuis en arrière de chez MRP. Alors, peut-être qu'il se
parle. Avec une enveloppe à la main, avec quelque chose.
Je sais pas, mais alors, j'espère pour lui qu'on va trouver une solution.
On demande à des étrangers d'être performants. On leur demande de tirer l'équipe. Par la force des choses, parce qu'il y a plein de blessés, c'est vrai qu'on lui a donné un rôle qui correspond plus dans cette première ligne avec son duo, on en a déjà parlé avec De Vos. Et puis finalement, ils font le job sur les matchs, ils vont chercher des buts. Il va dire qu'ils relancent Nettinen aussi, mais Nettinen devient à nouveau décisif quand il joue avec eux. Et puis encore une fois, après on le met en troisième ligne avec des joueurs comme Boson. On sait que j'ai pas enlevé du crédit à Boson, mais c'est pas lui qui va donner des pucks à Johnny Hazen pour pouvoir partir en compte. Donc je lis dans les colonnes du QG que notre entraîneur il cherche la recette. Il trouve trois ingrédients qui vont bien ensemble. Moi, si je suis cuisinier, j'essaie de les laisser ensemble puis de bâtir autour.
Mais t'es bon cuisinier ?
Moi, je suis un bon cuisinier. Il n'y a qu'à voir mon ventre comme j'aime manger et puis et tout. Donc, oui, je sais cuisiner.
Non, ça va être, je partage totalement. On a l'impression que dans cette équipe, il y a des statuts, que certains joueurs ont des statuts que d'autres n'ont pas. Et c'est ça qui est un poil gênant. On en reparlera après justement de tous ces changements liés au retour de Belmar. J'adore l'être humain, le personnage. C'est une figure du sport qu'on a la chance d'avoir dans le Jura, clairement, mais il revient et on bouleverse tout pour lui. Il faut quand même appeler un chat un chat, j'ai l'impression. On dissocie une association de vos saisons qui a fait ses preuves depuis tant d'années. On a besoin de joueurs de cette trempe-là en forme, qui plus est en ce moment, et on arrive à se mettre dans la panade en défaisant des choses qui fonctionnent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Et puis, clairement, Hazen, c'est un profil dont on a besoin. Un Hazen en confiance, je ne pense pas qu'on pourra en avoir 15 dans le Jura avec l'âme qu'il a, avec cet amour du maillot et du club. Donc pour moi aussi, clairement, j'espère qu'on trouvera une solution pour qu'il puisse rester à Jura la saison prochaine, parce que même si tout n'est pas parfait, il est clair et net qu'il en a encore sous le patin et qu'il voudra finir en beauté. Ça, pour moi, c'est une certitude.
Bon, on va directement attaquer avec l'épine. Je crois que voilà, il n'y a pas.
Est-ce que son nom a déjà été évoqué ?
Voilà, moi j'ai écrit, c'est plus qu'une épine, c'est un gros coup de gueule. Ben voilà, je la donne à Pierre-Édouard Belmar, là, qui nous a fait la semaine passée une rentrée pour moi catastrophique, à côté de la plaque, sans rythme, je dirais même sans aucune inspiration. Et puis le pire pour moi, c'est comme on a parlé de ces lignes qui ont été défaites quelque part. Là. Je crois qu'il a quand même brisé un petit peu la mécanique de ce HCA qui gagnait jusque-là. Quoi. On a cassé l'alignement de la triplette avec Vic, qui était au centre, et avec Motte et Sopa, qui marchaient pourtant bien. Quoi. Et puis, Belmar est venu, trois matchs, trois défaites. Le plus-minus, c'est moins 8, je crois.
Voilà, moins 8, ouais. Moins 8.
Et puis sa prestation à Bienne, là, où il est souvent par terre, en retard. Voilà, c'est pas ce qu'on attend d'un mercenaire.
Juste rajouter à ce que tu dis, il a cassé, oui, il a la première ligne, la deuxième ligne, on a cassé l'alignement, et puis on peut encore rajouter le power play qui a été modifié avec son retour. On lui donne un rôle majeur en power play. Le power play contre Berne, c'est 0%, contre Rapi, je crois que c'est 0% également. Puis à Bienne, c'est 1 sur 2 avec le but de Johnny dans la lucarne. Mais donc, ils font aussi en l'air le power play qui a fonctionné plutôt bien avec des gars comme Sopa dans les semaines précédentes.
Ouais, et puis tu parles des stats, 0% de réussite. Ben on est presque à zéro action aussi. Hein. Si je prends Berne, on a en power play, on est proche du néant, hein, clairement.
Moi, j'étais encore plus loin dans les stats par rapport à Belmar. Et encore une fois, c'est voilà, on a tout mon respect pour la carrière qu'il a eue, mais depuis le début de saison, il est le troisième attaquant le plus utilisé en avantage numérique après Onka et après Nettinen. En avant de Vos et en avant de Shaw. Tout en ayant joué moins de matchs, hein, parce qu'il a perdu, il a manqué 15 matchs. Il a une moyenne de 2,38 minutes par match de l'avantage numérique. Et puis il a 3 assists. 0 goal, 3 assists à toutes les minutes de power play qu'il a depuis le début de saison. C'est catastrophique. Quand on voit que des joueurs comme, on parlait Sopa, Vic et tout, ont déjà plus de points que lui en termes de points comptables, mais plus de points aussi sur l'avantage numérique, tout en n'ayant pas du tout le même temps de glace que lui-là. Il a 19 minutes 38 de temps de glace par match. Et puis là, il a au niveau de la moyenne de points par match, c'est 0,30 pour un étranger. Si moi, j'aurais eu ces statistiques dans mon époque, j'aurais pas fait très longtemps. Je peux vous dire, on m'aurait viré bien avant ça. Puis moi, je ne peux pas comprendre pourquoi qu'on s'astine à vouloir le mettre sur cette glace. Je ne peux pas comprendre.
Mais on a été focalisé par le fait qu'on jouait avec 5 étrangers ces derniers temps, puis il fallait un sixième, et puis on l'a, à partir du moment où il était là, il fallait lui donner un rôle, quoi. Je sais pas si on va parler des Jeux Olympiques et des Français. Parce que, ouais, moi, je suis déjà extrêmement heureux pour Kevin Bozon, pour Thomas Thiry, c'est la grotte qu'il y allait. Et puis l'histoire de Belmar, finalement, elle est belle, de vivre ces Jeux Olympiques à passer 40 ans. Mais le fait de les voir aligner les quatre, là, à Berne, dimanche, je trouve que le timing n'était pas bon, n'était pas idéal, quoi. Je sais pas, voilà, quoi. Moi, j'aime toujours dire qu'il n'y a pas plus grand que le club. Puis ça, faut jamais l'oublier. L'intérêt du club doit primer sur le reste. Puis j'ai un petit peu souci que cette escapade olympique à Milan, là, amène certaines une crispation dans le vestiaire, quoi. Voilà. Mais
oui. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce que tu as dit est très juste, que le club passe avant tout. Et j'ai quand même l'impression, peut-être c'est qu'une impression, mais pour moi elle est fondée, c'est qu'on a quand même quelques passes droits. Et puis Keller revient, il faut qu'il joue impérativement pour avoir du rythme avant les JO. Du coup, Kohn, son tape, et puis Kchatch, ma foi, il vient d'aligner des matchs, on le met remplaçant. Belmar, il faut qu'il ait du rythme, on le met sur le powerplay, on bazarre toutes les lignes, on met Vicalel, alors qu'il est beaucoup plus performant ces temps au centre. Moté, on y enlève tout le crédit, on le met en quatrième, on s'en fout. Sopa, on le rétrograde aussi pour pouvoir mettre Belmar pour qu'il trouve son rythme de croisière. Et effectivement, je trouve que le message n'est pas bon. Et puis, dans la situation où on a besoin d'un vestiaire uni. Et j'ai l'impression que là, on est en train un peu plus de désunir que d'unir.
Vous faites plaisir de dire les choses que je crois qu'on entend tous autour de nous dans la rue. Parce que le Jura, ça vit OK, ça parle OK. Donc, tous ceux qui vont au match voient la même chose. Les supporters voient la même chose. Il n'y a pas besoin d'être consultant, spécialiste de hockey pour se rendre compte de ce qui ne marche pas au HCA. Et puis, moi, voilà, je me demande vraiment s'il y a un capitaine sur le navire HCA en ce moment.
Oui, effectivement. Et puis, c'est non seulement ça, c'est. On parlait tantôt, les sous-performances de certains étrangers, mais tout au hockey se joue dans la tête, tout se joue au niveau de confiance, au niveau de comment je me sens, et puis comment, non seulement comment on va me parler, mais comment on va m'utiliser en tant qu'hockeyeur. Puis ces joueurs, là, on parle de Sopa, des Vic, qui, moi, je trouve qu'ils font des saisons bien au-delà de ce qu'on pouvait s'attendre en début d'année. On est constamment en train de leur mettre des bâtons dans les pattes pour mettre des joueurs. Un bel mort qui se traîne, il n'y a pas d'autre mot. Il se traîne la patte, il tombe perçant. Moi, je le vois à chaque match, il est toujours en train de tomber à la renverse sur le cul. Il est sur le ventre, c'est sur le côté. Il est plus solide sur ses patins. Et puis, les joueurs qui se disent, oh, mais attends, on m'enlève ma place pour mettre ça. Ça doit être démoralisant, et puis le niveau de confiance, il en prend un sacré coup.
Mais on aura quand même peut-être besoin de Belmar performant et décisif aussi pour cette fin de saison, et puis qui, voilà quoi.
Espérons que les JO lui fassent du bien, peut-être qu'il avait vraiment ça en tête, et puis qu'il sera peut-être décoincé après ça. Espérons.
Il faut l'espérer, mais il faut non plus se rendre compte que peut-être on va devoir passer encore une fois par les relégations. Et puis, il faut oublier que la relégation, il y a 4 étrangers et puis pas 6. Donc, voilà, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Mais avant tout, le HCA, c'est le HCA, c'est pas l'équipe de France. On n'est pas là pour faire plaisir à l'équipe de France puis mettre en forme les joueurs de l'équipe de France. On est là pour gagner des matchs ou tenter de gagner un maximum de matchs. Et puis, pour ça, ça prend le meilleur alignement possible et puis pas faire plaisir à Pierre et à Jacques.
Il y a un truc que tu as dit avant qui m'a un petit peu surpris. Là, tu disais que les étrangers, pour être libérés, il ne faudrait pas qu'il y ait un 7e, un 8e. Là, tu voyais la chose comme ça. Moi, je pense qu'au contraire, c'est que le HCA a besoin de partir au début de saison avec 7. Et puis, le fait d'engager derrière un 8e, ça répondait quand même à des besoins. Donc, c'est compliqué pour le HCA Joie de ne pas aligner 6 étrangers à chaque match, quoi.
Oui, oui et non. De toute façon, Ajoie n'est pas la seule équipe qui ont joué cette saison avec 4-5. Et puis, ils ont joué avec 5 pendant 5 matchs. Ils ont une séquence de 4 victoires. Donc, c'est pas primordial. Ça donne des responsabilités. Pas plus longtemps qu'il veut 2 saisons en arrière, quand ils ont fait la finale de play-out contre Chaux-de-Fonds. On perdait 2-0 la série. De Vos était blessé. Azun s'est blessé. Il est arrivé quoi? On a vu des Romanenghi, on a vu des joueurs que j'avais pas vu de la saison. Il y avait encore le Lundqvist qui est parti entre-temps. J'avais jamais vu ces joueurs jouer comme je les ai vus jouer dans cette série. Parce que là, ils ont dû, puis ils ont pas seulement dû, mais en plus, ils ont eu la confiance de l'entraîneur, parce qu'ils avaient plus, l'entraîneur avait malheureusement plus le choix, ou heureusement plus le choix, et puis ils ont performé à leur juste talent. Il y a trop de joueurs là-dedans qui sous-performent, parce que, un, on pousse constamment, souvent trop, les étrangers, et puis ben les joueurs suisses s'écrasent. Au bout d'un moment, on sent pas bienvenu, on se dit « ouais, mais on est de la merde, nous ». Quand tu joues un power play puis t'envoies tes 5 étrangers sur la glace, moi, j'étais un étranger, j'aurais pas aimé jouer avec 5 étrangers. Moi, quand j'étais sur la glace, à l'époque, avec Yann, avec Gilbert Fleueller, ou peu importe lequel, je voulais la rondelle. Mais quand t'as 5 étrangers sur la glace, puis ils veulent tous avoir la rondelle, c'est qui doit l'avoir, la rondelle? Puis pendant ce temps-là, les 4 autres, ils font quoi à côté? Les joueurs suisses sont capables de faire le boulot. On l'a vu dans la période où on a gagné 4 matchs en 5 soirs. Sopa, Vic et compagnie marquaient des goals en avantage numérique aussi. Mais ils sentaient la confiance derrière eux. Mais maintenant, ils ne la sentent plus parce que dès qu'un Belmont revient, ils sont mis de côté et puis on envoie d'autres gens à leur place. Alors, c'est tout un niveau de confiance. Puis pour venir à ta question, Raph, moi, en tant qu'étranger, on est ici pour faire un boulot, mais quand tu sais que dès que tu fais une mauvaise performance, tu peux te ramasser dans les estrades, c'est fatigant. On a même vu cette année, durant le cours de saison, surtout en début, De Vos, qui était le top scorer du HCA, se faire mettre dans les estrades en étant le top scorer. Montre-moi un autre club de Ligue nationale que leur top scorer s'est fait mettre dans les estrades après avoir été le top scorer. Ça n'existe pas nulle part, sauf ici.
Moi, alors, 8-9 étrangers, c'est pas un problème, mais c'est la gestion du groupe, c'est la gestion de mise en confiance de ce joueur. Le PSG au football, ils ont 3 équipes, ils arrivent à performer quand ils jouent sur tout cela. Et puis comme Martin le dit, quand De Vos était top scorer en début de saison, tout de suite on lui a cassé le moral en le foutant dans les estrades. À peine qu'il a fait un match un peu moins bon, c'est Johnny Hazen qui est revenu, il a pris le gendarme de top scorer en 3 matchs. Quand Turkulainen est revenu, même avant, on a mis qui dans les tribunes? Joe Hazen. Donc à partir du moment où tu fais, même quand tu fais des bons matchs puis que t'es performant, on te met dans les tribunes. Donc la pression, oui, elle est là. Et puis là, le manque de confiance, il est évident pour beaucoup de joueurs. On peut mettre des Kiki Motet là-dedans aussi, qui a eu un petit sursaut en fin de match contre Rapperswil, qui met un but, un assist. Et puis comme résultat, on le retrouve en 4e bloc à Berne le match d'après.
La bande du jeudi.
Voilà, on vient donc de parler de ces deux visages du HC Ajoie. On a tenté d'évoquer le pourquoi du comment. Peut-être qu'on peut se focaliser maintenant sur les 2 semaines et quelques à venir, avant le match du 24 février à Zurich. Quels sont, selon vous messieurs, les dossiers prioritaires, les chantiers prioritaires sur lesquels le HCA doit s'atteler? On va commencer par notre invité.
Ben, les chantiers, c'est de trouver, comme tantôt, on disait tantôt que Yann, avec c'est un bon cuisinier, il faut trouver des combinaisons et puis les garder ensemble. On avait une combinaison de Vos, Hazen, Nettinen qui allait super bien et on a tout démantibulé parce qu'on voulait trouver une place à Belmort et puis pas le faire jouer avec un Boson. Pourtant, les deux vont en équipe de France, donc on aurait très bien pu le faire. Donc, moi, je pense que c'est important de trouver des combinaisons et puis de les garder ensemble pour un petit moment, pour vraiment mettre des automatismes. Parce que le hockey, aujourd'hui, c'est un jeu d'automatisme. Il faut mettre des automatismes en place. Quand qu'à chaque jour, à chaque entraînement, c'est un nouveau qui arrive, on doit toujours trouver. Et puis moi, en tant qu'ancien étranger, hein, Yann, ici, j'ai joué avec assez longtemps, avec le Gilbert, par exemple. Voilà, je voulais qu'à chaque fois que j'ai les automatismes, ça devait être automatique. Je sais qu'il est là, je sais que lui s'en va là, et puis ça devient facile. Quand on doit à chaque fois changer et puis trouver des combinaisons, c'est compliqué.
Il faudra gérer le retour aussi des blessés en gardant justement ses pairs. Je pense que là, on a trouvé, Hazen, De Vos ensemble, ils vont bien. Il y aura, j'espère, le retour peut-être de Turkulainen après la pause. Il y a des gars comme Robin qui vont aussi revenir après la pause. Il s'est remis de son opération, il va revenir. Donc j'espère qu'on récupère des joueurs. Et puis ben, justement, il faudra trouver dans les quelques matchs qui restent c'est hyper complémentaire où chacun a un rôle à jouer et puis qu'on se prépare justement pour cette série de play-outs qui va arriver encore assez vite.
Et une équation supplémentaire avec le retour de Gauthier aussi, ça fait quand même encore un centre en plus. Je l'ai dit avant, moi je suis quand même convaincu que Vic, sa place elle est au centre, je le trouve vraiment excellent dans ce registre-là. Alors peut-être que l'adaptation elle était compliquée pour le remettre à l'aile après plusieurs matchs joués au centre, mais j'aimerais revoir la ligne aussi des Suisses, moi je l'ai trouvé vraiment bonne. Et puis je pense encore une fois, comme t'as dit Martin, si on doit passer par un barrage, avoir une ligne de Suisse performante plus une ligne d'étrangers performante, ça va sans aucun doute nous permettre de battre la Chaux-de-Fonds, Viège, si on va en arriver là. Donc remettre Motet, Sopa, Vic, les faire travailler ensemble, pour moi ça me paraît nécessaire. Et après il faudra trouver les justes équilibres effectivement pour y parvenir, ou en tout cas garder Vic sur le centre avec un Sopa ou un Motet, éventuellement reculer quelqu'un d'autre sur la troisième pour avoir une troisième performante avec pourquoi pas un Robin qui revient fort. Ça effectivement, trouver les alchimies, pour moi c'est primordial qu'on arrête pour une fois de changer les lignes à chaque match et puis qu'on arrive à trouver vraiment la bonne alchimie, et puis aussi qu'on reparte vraiment sur un esprit positif, parce qu'on aura des matchs amicaux en plus, c'est un peu comme si on refaisait une nouvelle préparation et on a peut-être le temps de se remettre le bouton sur un aspect plus positif, de retrouver la banane alors que les visages étaient vraiment totalement défaits après le match à Berne.
Et il y a surtout une question qu'on n'a pas posée encore autour de cette table, c'est est-ce qu'on continue avec le même coach quelque part ? Je vous rappelle qu'il y a 4 ans, pause des Jeux Olympiques, c'est le moment qu'avait choisi le HC Ajoie pour changer d'entraîneur. Il y avait deux moments pour changer d'entraîneur, c'était au mois de mi-octobre. Le club ne l'a pas fait à l'époque, après une série de 8 défaites, je crois. Et puis là, maintenant, il y a cette 3 semaines, une semaine sans entraînement où les joueurs ont pu un petit peu souffler. On verra lundi, pour partir avec une nouvelle dynamique. Je ne dis pas qu'il faut changer d'entraîneur, je dis que c'est le moment de se poser la question, parce que s'il faut le faire, c'est maintenant. C'est pas dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois. Si on veut préparer la série de play-out, il faut le faire dans les meilleures conditions possibles. Et puis, si effectivement il y a une option pour peut-être partir avec une nouvelle voie, faut le faire maintenant et peut-être se poser la question. Voilà quoi, c'est maintenant qu'il faut s'imaginer ce genre d'interrogation.
La question, pour moi, elle est trop tard. On aurait dû le faire un petit peu avant que maintenant. Parce que là, il y a les joueurs qui sont partis, donc déjà les entraînements, c'est plus la même chose. Il y a 4 joueurs qui sont absents. Il y en a, je ne sais pas après ça si tous les étrangers, les blessés, ils sont de retour sur la glace ou pas. Mais en même temps, je continue à dire qu'il faut arrêter de jouer à cette chaise musicale de on monte, on descend, on déplace, on replace. Il faut trouver des paires de défenseurs qui sont ensemble, qui sont compatibles. Il faut trouver des duos, puis essayer d'accompagner le troisième pour dans leur registre de ce qu'ils ont besoin. Et puis après ça, je pense que les choses devraient aller beaucoup mieux, parce que c'est compliqué pour un joueur de constamment devoir changer de, c'est comme ça serait comme un homme de mener à chaque jour avec une nouvelle femme à la maison, ça serait vraiment compliqué au bout d'un moment.
Et puis en plus de ça, moi j'aimerais aussi qu'on change pendant ces matchs amicaux là, qu'on change de système, qu'on essaye un plan B, parce que on s'est accroché à un système qui fonctionne pas, on reprend plein de buts, on est inefficace, qu'on arrête de foutre le puck au fond, qu'on arrête de dégager le puck, qu'on garde le puck, qu'on fasse donner de la confiance aux joueurs pour aller gagner des matchs, parce que justement comme vous le dites, si on doit aller jouer une relégation contre des Ligue B, on va pas se contenter de défendre contre ces équipes là, mais il faudra qu'on attaque avec des joueurs qui aient de la confiance, puis même pour aller gagner les play-out contre le 13e, pour moi, je serais plus à l'aise si le HC Ajoie joue en attaque puis joue avec le puck que si on subit, comme on l'a fait, ces 50 et quelques, ces 48 matchs. Là.
Mais est-ce que ce coach a la possibilité de changer de système ? Est-ce qu'il a la vocation et l'envie de le faire ?
Julien Vauclair, j'ai vu quand il a pris la barre au remplacement, il a amené des autres systèmes. Il est directeur technique, il a une voix à faire entendre. Dans certains clubs, si on ne vire pas l'entraîneur, on impose certaines choses. Je pense que c'est peut-être le moment maintenant de taper le poing sur la table, comme Martin l'a fait avant, si vous l'avez entendu. Mais il faut changer quelque chose. Et puis, on peut pas s'accrocher à un système qui marche pas. Il faut, je suis désolé, il est intelligent, Greg Ireland. Il doit maintenant changer son système et puis proposer autre chose à ses joueurs pour leur donner confiance puis les libérer.
C'est pas que son système n'est pas nécessairement bon, mais un bon coach doit s'ajuster avec les joueurs qu'il a en sa possession. On ne peut pas prétendre coacher un club comme Lugano, parce que Craig était à Lugano, il y avait beaucoup plus de joueurs de talent, et puis demander... Wolven, il y a eu un peu le même problème quand il est venu ici, il voulait instaurer ce qu'il faisait à Davos. Mais on ne peut pas demander à des joueurs du HCA de faire ce que les joueurs de Davos faisaient, parce qu'ils n'ont pas le même niveau technique, ils n'ont pas le même niveau de talent, pas le même niveau d'intelligence de jeu. Et puis on s'astine effectivement à vouloir jouer les longs pucks, après se remettre en profondeur, et puis on court, le gap est trop grand, on n'a pas de support, et puis c'est pour ça qu'on peine à créer de l'offensive, parce qu'il y a trop de séparation. Quand on n'a pas des défenseurs qui sont capables de faire des longs jeux, puis surtout de suivre, mais il faut regrouper, être beaucoup plus compact dans les trois zones. Trop souvent, je trouve que l'espace est trop grand entre les zones, et puis c'est ce qui fait qu'on ne crée pas beaucoup d'offensive. Puis effectivement, si on doit aller jouer contre un barrage, contre un club de Ligue nationale, puis on est obligé de domper des pucks contre un club de Ligue nationale B, bien, même là, on pourrait avoir des problèmes éventuellement. Donc, il faut vraiment un petit peu changer la façon qu'on a de faire présentement.
Dans l'œil de la vouivre.
OK, c'est parti. On va terminer avec le quiz spécial Jeux olympiques. Vu qu'il y a la pause puis il n'y a pas de match, on va profiter. On va se replonger un petit peu pour la première question. Georges, j'ai préparé 5 questions déjà, Rafi. Hein, ce sera la surprise de Squeeze. La première question en préambule. La Suisse va participer à ses 18e Jeux olympiques. Connaissez-vous le nombre de médailles que la Suisse a remportées aux Jeux olympiques?
Saint-Moritz 36. Ça fait...
T'as pas la bonne date, mais...
Saint-Moritz, c'est ça? Il n'y a pas une médaille aux Jeux olympiques en Suisse à Saint-Moritz?
Michel, t'aurais une idée?
Du nombre?
Ouais.
Je dirais 2.
Bien joué.
Ouais, si j'aurais dit 2, mais je pourrais pas dire.
Les dates, vas-y. Par contre, je les ai pas.
Alors c'est ça, c'est 2 médailles de bronze, les 2 à Saint-Moritz.
Ah ouais, tu vois.
En 1928, derrière le Canada puis la Suède. Et puis en 1948, derrière le Canada et la Tchécoslovaquie. Deuxième question, la Suisse se présente avec 10 joueurs NHL cette année aux Jeux Olympiques. Lors des derniers Jeux Olympiques estampillés NHL, c'était à Sochi en 2014, la Suisse avait 4 joueurs de NHL. Est-ce que vous pouvez les citer?
Josi.
Juste.
Ouais. Niederreiter.
Juste. Un défenseur. Le plus grand.
Streit.
Mark Streit.
Et puis un gardien.
C'est ça.
Gerber.
Non. Un autre qui a fini à Bienne.
Jonas Hiller.
Jonas Hiller, effectivement. Ah ouais. Mark Streit, Niederreiter, Hiller et Josi étaient les 4 NHLers qui étaient en équipe.
Hiller était titulaire à l'époque? Je pense pas.
Non, mais il était là. Ouais. Je ne pourrais pas dire le nombre de minutes de jeu qu'il a eu, mais il était quand même présent dans l'équipe. Dans une semaine, le 12 février, gros match, Suisse-France. Le dernier match officiel entre la Suisse et la France, c'était le 22... Enfin, je vous aide, hein, parce que tu fais des gros yeux déjà. C'était le 22 mai 2022, au championnat du monde en Finlande. Est-ce que vous vous souvenez du score? Ou moi, qui avait gagné et puis le score?
J'en ai discuté il y a peu de temps avec Kevin Bozon qui m'a dit que ça a été un match assez serré. Donc, c'est l'information que j'ai. Je crois que... Ouais,
4-3 pour la Suisse, si je ne dis pas...
Ah, peut-être.
La Suisse a gagné 5-3, aussi, 6-3. Mais je ne sais pas.
Ouais, la Suisse a gagné 5-2 ce match-là.
Depuis... Assez serré, ça va.
Ça va, ouais. Si on gagne 5-2, on va prendre ça quand même, puis on sera gentil avec les Français. Depuis, il y a eu 5 matchs amicaux. 5 matchs amicaux, pardon, et puis 5 victoires de la Suisse. Quatrième question, le jour d'après, le 13 février, là, ça sera vraiment un gros match, vraiment intéressant pour tous les supporters de hockey. On aura le fameux Suisse-Canada. Les USA ont eu leur miracle on ice à Lake Placid, mais la Suisse a également eu son miracle au jeu de Turin. Le score, Martin?
2-0, j'en ai encore des cauchemars, monsieur.
Ça, c'était trop facile, donc on va continuer dans cette thématique-là. Qui était le buteur encore aussi facile?
Paul Di Pietro,
avec son nez rouge.
Gerber était l'entraîneur, Ralf Kruger l'entraîneur. Alors non,
ouais. Gerber était dans le gardien. Ouais. Mais si je veux vraiment être méchant, qui a fait les assists sur les 2 buts de Di Pietro?
Ouf. Julien Vauclair.
Non, Julien Vauclair était dans l'équipe, mais c'est des gars que moi j'aurais jamais retrouvé.
Vas-y.
Goran Bezina,
effectivement, sur le deuxième but, sur un shoot de la ligne bleue, passe de Streit à la ligne bleue. Pour Goran Bezina qui rate un peu son shoot, ça tape un patin canadien, ça arrive sur le côté du but, dans la canne de Di Pietro qui marque le 2-0. Puis le premier but, c'était une passe depuis derrière le goal de Patrick Delarossa.
Ah oui.
Cinquième question, parce qu'il y en a une. Le troisième match de la Suisse aux Jeux Olympiques dans ce tour préliminaire, ça sera face à la Tchéquie, qui ont un effectif extrêmement expérimenté avec 8636 matchs de NHL. Ils ont actuellement 13 joueurs qui jouent en NHL, qui seront là. Puis dans l'effectif, il y en a 22 qui ont joué en NHL. Mais la Tchéquie, c'est aussi une équipe qui va faire vibrer les fans de National League parce qu'ils ont pas mal de joueurs qui jouent en Suisse. Il y en a 3 qui jouent actuellement.
J'en ai un là.
Ouais,
alors,
Stransky, ouais.
Matej Stransky à Davos.
C'était Vol.
Celui de Zouk, là.
Non. Il y en a un, vous devez savoir. Il était en Suisse, il est parti au NHL, il est revenu en Suisse cette année, il est top scorer.
Ah oui, Tatar.
Non,
mais Kubalik.
Kubalik. Bien joué, Michel. Dominique. Ouais. Dominique Kubalik, t'as lu sur ma affiche. Hein,
non, j'ai pas
le troisième.
Pas
il joue en Romandie, il joue à Genève. Yann Ruta.
Le Demon.
Et puis là-dedans, on peut ajouter encore 2 autres joueurs qu'on joue en Suisse. Un qui est super connu, qui a joué à Rapperswil, qui est toujours là.
Chervenka est encore là.
Pierre, il est toujours là. 40 ans aussi, wow. C'est aussi, on parle de Belmar, il s'est 40 ans, mais Chervenka sera le doyen de la Tchèque.
C'est même pas Jaromír Jágr, alors.
La Tchèque. Non, il n'y a pas Jágr, il y aura Chervenka. Et puis, il y a un autre que moi, je ne me souvenais plus du tout. Il y a Tomáš Kundratek, qui a fait 13 matchs en 2018-2019 avec Davos. Mais lui, j'ai recherché parce que j'avais aucune idée qu'il allait jouer en Suisse.
Il y a du travail derrière ces questions. Bravo, Yann. Hein.
Merci beaucoup. Ouais, mais je dois me mettre à votre niveau, Michel Pirafi. Votre boulot est toujours immense. J'essaie de faire aussi bien que vous. Puis, la dernière bande du jeudi, c'est Rafi qui avait fait le quiz puis qui avait posé la question. Il lui demandait dans quel club Joe Hazen avait joué quelques matchs. Il s'agissait de...
Ambri Piotta,
effectivement. Et c'est Joël Dalle qui a donné la bonne réponse et puis qui va recevoir un cadeau estampillé bande du jeudi. Et puis enfin, on va vous reposer une question pour les fans toujours plus nombreux de notre podcast. On va jouer un peu les pronostics. Je vais vous demander d'envoyer massivement pour noyer Michel sur les réponses vos pronostics pour le match Suisse-Canada aux Jeux Olympiques. Donc vous pouvez envoyer vos pronostics avant le 13 février, bien sûr, parce que je connais une qui a essayé de répondre au début d'année. On a demandé le premier buteur du HA Joie. Il y a quelqu'un qui a répondu après le match. C'est un peu trop facile. Donc là, je vous demande vos pronostics avant le 13 février. Ça vous laisse une semaine. Et puis on attend vos réponses directement sur la page consacrée à la bande du jeudi sur le site internet de RFJ, où vous retrouverez le formulaire réponse, où vous pouvez envoyer un mail à bdj@lqj.ch, là aussi avec votre pronostic et vos coordonnées.
On a le droit de jouer, nous, là, maintenant. On peut y aller, hein.
Vous pouvez aussi jouer si vous voulez gagner un beau cadeau bande du jeudi.
Ah ben moi, je dis 1-0 pour la Suisse. C'est incroyable. Eh oui.
T'es à la masse, toi. T'es complètement malade.
Vas-y.
je crois, sans vouloir être chauvin, 6-1 Canada.
2-1 prolongation pour le Canada quand même.
Moi j'ai envie d'être positif pour la Suisse, mais je dirais 4-3 en prolongation ou un 4-3, mais vraiment tendu.
On a énervé là.
Non,
les grosses équipes seront prenables, la première semaine,
c'est clair, ça va être un peu plus compliqué, mais en même temps, là, je veux dire, c'est pas un championnat du monde, là c'est les meilleurs joueurs de la planète qui sont tous réunis, alors gagner un championnat du monde ou jouer en demi-finale d'un championnat du monde ou battre le Canada en demi-finale, parce qu'à l'époque c'était un championnat du monde, là c'est vraiment les Jeux Olympiques, tous les meilleurs joueurs de la planète y sont.
Tu nous as dit...
C'est 1-0, Raph. C'est soit que ton goaler il va arriver avec une armure.
Ouais, mais avant, tu l'as dit, Martin. Si tu avais 5 étrangers sur la glace avec toi, vous voulez tous les faire. Ouais. Donc là, aura Celebrini avec McDavid, avec McKinnon, avec Crosby. Qui va vouloir le puck, Macar. Tout le monde va vouloir le puck. Donc est-ce que les Canadiens vont jouer avec 5 pucks? Et là, il y aura peut-être un 6-2 pour le Canada.
Non, mais pas qu'ils risquent de bouger très, très rapidement. Je vais vous dire, eux, ils trouvent des solutions rapides avec une rondelle. Mais ça c'est réjouissant vraiment de voir ce que ça va donner parce qu'il va y avoir des belles équipes. Ça va être une belle compétition.
Mais on espère vraiment que la Suisse, avec justement, je pense qu'on a une des plus belles équipes de Suisse qu'on a vu depuis très longtemps.
Définitivement.
Arriver à peut-être battre la France, hein, on le souhaite. Contre le Canada, le faire le mieux possible. Contre la Tchéquie, c'est un adversaire qui ne nous convient pas forcément, mais on va voir ce qu'on va donner. Mais j'espère qu'on puisse sortir de ces poules, puis pourquoi pas créer une surprise dans les matchs à élimination après.
Puis la cohésion, c'est des joueurs qui se connaissent, qui ont l'habitude de jouer ensemble. C'est des derniers mondiaux, oui, il y a
ça, c'est un avantage qu'ils ont, ça c'est clair. Mais en même temps, Comme les statistiques de Ligue nationale qu'on n'a pas vraiment parlé tantôt, c'est la situation spéciale vont faire une différence dans des tournois comme ça. Alors, ceux que l'avantage numérique va bien marcher, et puis ceux que le box-play va bien marcher, mais ça va faire une grosse... Parce qu'à 5 contre 5, tactiquement parlant, maintenant, toutes les équipes sont quand même à point, ils savent un peu tout comment chacun joue. Donc là, c'est ces situations spéciales qui vont peut-être faire la différence.
Eh bien, on espère en tout cas qu'on vivra un bon tournant. On aura l'occasion de le débriefer d'ailleurs parce qu'on se retrouvera que dans 3 semaines. On se laisse le temps aussi de regarder les JO et on se revoit donc le 26 février. Merci beaucoup Martin d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Avec un grand plaisir.
Et merci aussi à toi Rafi et à toi Yann. On se voit quant à nous dans 3 semaines. À bientôt.
Bye bye. Bye.
Salut.
Salut.